à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Voici aujourd'hui l'histoire du collectionneur d'instants. Le soir, quand le jour s'assombrissait et qu'il ne pouvait plus peindre, Max chantait. Debout à la fenêtre de son atelier, dans sa veste fripée de lin noir, il chantait. Entre les maisons, de l'autre côté de la rue, on apercevait la mer. Au loin, au bout de la jetée, le projecteur du phare se mettait à clignoter. Le ferry abordait l'île pour la dernière fois de la journée, puis repartait. Sa cheminée traçait sur le ciel une mince ligne de fumée et un vol de mouettes l'accompagnait. Max chantait d'une voix claire, presque enfantine, des chansons sans paroles. Je me blottissais dans le fauteuil rouge et je l'écoutais. Un jour, Max m'entendit jouer du violon. Par la suite, il me pria chaque soir de jouer tandis qu'il chantait. Parfois, il se contentait d'écouter le chant de mon violon. « C'est beau ce que tu joues, professeur, » disait-il quand nous avions terminé. « Professeur, c'est comme ça qu'il m'appelait. » À l'école, on se moquait souvent de moi à cause des lunettes d'acier démodées que je devais porter et aussi parce que j'étais rondouillard. Mais quand Max disait « professeur », il n'y avait aucune ironie dans sa voix. Au contraire, c'était une marque de considération. Nous habitions un immeuble dans la rue du Port, une large avenue qui traversait la ville et menait au port et à l'embarcadère du ferryboat. Le magasin de mon père occupait le rez-de-chaussée. Sur l'enseigne fixée au-dessus de la porte était écrit en lettres bleues foncées « Quincaillerie » et en dessous, dans une écriture plus petite, « Propre e Bucotes ». Les habitants de l'île achetaient leurs outils chez mon père, charnières, serrures, vis et clous de toutes les tailles et de toutes les formes. Notre appartement se trouvait au-dessus du magasin. Je partageais une chambre avec mon frère aîné. Max avait emménagé au 4e étage, une chaude journée de mars. Les premières hirondelles de mer étaient de retour et emplissaient l'air de leurs appels. Le vent chassait devant lui des fragments de nuages dans le bleu du ciel et rabattait sur les terres l'air marin chargé de sel. Un camion jaune de déménagement s'était garé devant l'immeuble. Des hommes en bleu de travail en sortirent des cartons, des tables, des chaises, des étagères, des pots de fleurs, un vieux globe terrestre, un chevalet et un large fauteuil tendu de velours rouge foncé. Max s'agitait au milieu des ouvriers, donnait des ordres et se passait sans cesse la main dans les cheveux. Il resta tout l'été, l'hiver et encore l'été suivant. Et puis, quand arriva l'automne, il repartit. Un escalier étroit, aux marches usées et grinçantes, bordées d'une rampe en fer forgé, menait au 4e étage. Chaque jour, ou presque, je me plantais devant la porte peinte en gris et baissais lentement la poignée. Quand la porte n'était pas fermée à clé, j'avais le droit de rendre visite à Max. Souvent, je passais l'après-midi entier dans son atelier, tandis qu'il peignait. Je faisais mes devoirs, couché à plat ventre sur le parquet. Sur de grandes feuilles de papier à esquisse, je dessinais des voiliers dans la tempête, d'intrépides chefs indiens, des chevaliers au combat et des dragons crachant le feu. Ou bien je bricolais des fusées en carton et papier argent propulsé par des pointes d'allumettes. Pour le premier vol habité qui devait décoller de la pelouse du parc municipal, les cosmonautes seraient des mouches. Je lisais Robinson Crusoe, L'île au trésor ou Les enfants du capitaine Grant que j'avais trouvés sur les rayons de la bibliothèque de Max. D'épais livres d'images étaient entassés en hautes piles partout sur le sol. Je me plongeais dans les mondes disparus, des rois et des reines, marchais sur les traces des grands explorateurs et suivais la piste des bêtes sauvages, découvrais des cités et des pays lointains et admirais les œuvres d'architectes célèbres ou les tableaux des plus grands peintres. Sur l'échiquier, je jouais contre moi-même avec la certitude rassurante de gagner toutes les parties. Parfois, j'entreprenais de longs voyages autour du monde sur le vieux globe terrestre posé sur un tabouret près du poêle à mazout et mon index traçait la route sur la couche de poussière qui couvrait l'hémisphère nord. Les bruits de la rue parvenaient, assourdis. De temps à autre retentissait la trompe du ferry. Les jours de canicule, le ventilateur vrombissait au plafond. L'horloge murale égrenait les secondes et j'entendais le grattement léger et régulier de la plume de Max sur le papier à dessin. Il restait des heures durant, assis, immobile. À la grande table, le buste penché sur le dessin, entouré d'esquisses, de livres, de crayons et d'innombrables gobelets de peinture. La main qui tenait le porte-plume se déplaçait lentement, avec de courts mouvements tranquilles, sur la surface du papier. De temps à autre, il essuyait la plume avec un vieux chiffon bariolé, plaçait le dessin sur le chevalet à côté de la table et l'examinait longuement en se passant la main dans les cheveux. Il arrivait qu'un sourire illumina son visage, mais le plus souvent des plis profonds marquaient son front. Parfois aussi, il se levait, déambulait d'un air agité dans son atelier, regardait par la fenêtre ou disparaissait pour un moment dans la cuisine. Il se rasseyait ensuite à la table, reprenait le dessin et se remettait au travail. Blotti dans le fauteuil rouge, j'aimais regarder Max travailler, même si je ne pouvais voir ce qu'il dessinait ou peignait. Il aimait s'entourer de mystères. Quand, au bout de quelques semaines, un tableau était achevé, il l'encadrait et le posait à côté d'autres, appuyé contre le mur, tourné à l'envers. « À chaque tableau mène un chemin invisible », m'expliqua un jour Max. « Le peintre doit trouver ce chemin. Il ne doit pas montrer trop tôt ce qu'il peint, sinon il risque de perdre le chemin. » Max passait beaucoup de temps à l'extérieur. Comme un explorateur, il parcourait les rues de la ville, arpentait, les cheveux au vent, la plage immense ou les dunes. Il pouvait rester des heures durant assis sur la jetée, sur un banc du parc ou dans un des cafés du bord de mer. Son regard fixait le lointain, comme s'il y cherchait quelque chose. De temps en temps, je le surprenais, qui prenait des notes, ou griffonnait de rapides esquisses dans un carnet qu'il emportait toujours avec lui. Parfois aussi, il entreprenait de plus longs voyages, et je l'accompagnais à l'embarcadère, puis courais sur la jetée jusqu'au phare. Quand le ferry passait le phare, Max se tenait sur le pont arrière, sa valise de cuir brun posée à côté de lui, et agitait la main. Je répondais à son salut, et suivais le bateau du regard jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point minuscule à l'horizon. Il ne me disait jamais quand il reviendrait. Peut-être ne le savait-il pas lui-même. Mais un beau matin, la porte de son appartement n'était plus fermée à clé. Je pouvais rentrer, comme avant son départ. Max était assis à la table, il me lançait un clin d'œil et se concentrait à nouveau sur le dessin qu'il avait commencé depuis son retour. Et de nouveau plongé dans le silence magique de la pièce, je me blottissais dans le fauteuil rouge. Dans l'obscurité, je jouais sur mon violon, comme toujours. Max m'accompagnait de son chant, ou se taisait. Max racontait rarement ses voyages, mais quand il le faisait, alors c'était des récits étranges d'événements ou de mondes dont je n'avais jusque-là jamais entendu parler. Un jour d'hiver, Max avait cessé de dessiner plus tôt que de coutume. Nous étions assis tous les deux devant la fenêtre de son atelier et buvions du thé dans des tasses bleues sombres. Dehors, il neigeait à gros flocons, et tout semblait plus silencieux encore que d'habitude. « Savais-tu qu'il y a des éléphants de neige au Canada ?» demanda Max, tandis que nous regardions tomber les flocons. « Ils sont plus grands que les éléphants d'Afrique et ont une épaisse fourrure blanche comme les ours blancs. Ils sont très craintifs et ne quittent les forêts que pendant les tempêtes de neige. Malgré leur taille, ils se déplacent sans bruit avec une agilité incroyable. Il est très rare de pouvoir les observer. » À peine les a-t-on entrevus qu'ils ont déjà disparu dans les tourbillons de neige. Nous étions restés un instant à regarder par la fenêtre. Puis Max me raconta l'histoire de la roulotte de cirque volante qu'il avait un jour aperçue. Un soir plus tard, dans une petite ville, il était sorti se promener lorsque la roulotte avait plané sans bruit dans le ciel, fenêtre illuminée. Elle était restée un instant suspendue au-dessus d'un pont, puis avait disparu lentement dans l'obscurité de la nuit. J'aimais ces histoires. Elles semblaient complètement invraisemblables, mais Max les racontait comme si elles étaient réellement arrivées. Naturellement, je voulais qu'il me dise la vérité. « Allez, faisons un peu de musique, professeur », disait-il avec un sourire en rapportant les tasses à la cuisine. Parfois, il refusait d'expliquer les choses les plus importantes. Cela faisait maintenant plus d'un an que Max habitait notre immeuble. Une longue rangée de tableaux était appuyée, retournée contre les murs de l'atelier. Un soir, après que nous eûmes joué une fois encore de la musique, Max annonça qu'il allait partir pour assez longtemps. Il me donna un trousseau de clés et me demanda de m'occuper de son appartement, d'arroser les plantes et de sortir le courrier de sa boîte aux lettres pendant son absence. Mais ce qui était merveilleux était qu'il m'autorisait à m'installer aussi souvent que je le voulais dans son atelier. Max partit au petit matin, au début de l'été, et je l'accompagnai jusqu'à l'embarcadère. Une légère brume flottait encore au-dessus de la mer, et la lumière du premier soleil se brisait en milliers d'étincelles à la surface des vagues. Comme de coutume, je m'étais postée près du phare et agitais les bras lorsque le ferry passa devant moi. Un goéland vola tout près au-dessus de ma tête en criant. Au loin, sur la mer d'argent, deux voiliers se croisaient. Je remontai la jetée, longeant les hôtels et les cafés de la promenade où les garçons mettaient les chaises en place et essuyaient les tables. Au coin de la rue du port, un orgue mécanique jouait « Blue Spanish Eyes ». Il y avait du courrier dans la boîte aux lettres de Max. Je le sortis et grimpai en courant les escaliers. Lorsque j'ouvris la porte de l'appartement, mon cœur battait à rompre. Il faisait sombre dans le couloir. Max avait rassemblé toutes les plantes sur la table dans la cuisine. Je posai les lettres à côté. La porte de l'atelier était ouverte. Quelque chose avait changé. Les tableaux, comme d'habitude, étaient alignés en une longue rangée contre les murs, mais ils étaient tournés vers moi. Maintenant, je pouvais les regarder. Maintenant, j'avais le droit de les regarder.
Thank you.
Devant chaque tableau était déposé un morceau de papier à dessin sur lequel Max avait écrit quelques lignes. J'étais au milieu d'une exposition qu'il avait préparée pour moi.
Éléphant de neige au Canada. Cela ne dura vraiment qu'un instant. Un 1er janvier. Il avait neigé toute la nuit. Le soir précédent, le cirque avait donné sa dernière représentation. Quelques instants plus tard, un taxi s'engagea dans la rue déserte, abandonnée. 6h30 du matin, un chien se mit à aboyer dans la maison, une personne alluma la lumière.
Tandis que, derrière moi, les minces raies de lumière glissaient lentement sur le plancher, le temps semblait se distendre à l'infini sur les tableaux de Max. Accroupi sur le sol dans le silence de l'atelier, je me déplaçais légèrement de temps à autre et mes yeux parcouraient sans fin les étranges images que Max avait peintes. J'aurais voulu lui poser tant de questions. Ces tableaux étaient-ils des souvenirs de ceux qu'il avait vus au cours de ses voyages? Je voyais défiler devant moi les éléphants de neige dont il m'avait parlé. Je reconnus aussi la roulotte de cirque volante. Tout était peint avec précision et me semblait étrangement familier, même les couleurs. Le bleu glacé de la neige, le vert étincelant des prés sous le soleil du matin, le jaune éclatant des lumières dans la nuit. Pourtant, sur chacun des tableaux se produisait une chose inhabituelle, une chose inconnue qui me troublait et en même temps me fascinait, m'attirait. Max avait peint chaque fois un instant précis. Mais je devinais l'histoire qui avait commencé bien avant cet instant et qui se poursuivrait longtemps après. Sur un tableau, je remarquais un énorme paquet à côté d'une maison. Mais je ne savais pas comment il avait été posé là, ni ce qu'il contenait, ni vers quoi les vaches regardaient. Cela, Max ne l'avait pas représenté. Il m'avait dit un jour une chose que je n'avais pas comprise. Chaque image doit conserver un secret, même pour moi. D'autres peut-être voient dans mes images beaucoup plus que je ne vois moi-même. Puis il avait ajouté « Je ne suis qu'un collectionneur, je collectionne les instants. » Maintenant, je devinais ce qu'il entendait par là. Max s'était représenté, reflété dans un miroir, près d'une porte ouverte sur la plage. Sa valise de cuir brun était posée sur le seuil. À côté, le carnet d'esquisses. Sur le papier déposé devant le tableau, je lus « Le collectionneur d'instants ». Parfois, des enfants passaient, délibéraient avec l'homme, puis disparaissaient derrière une des portes. Ça, c'est l'un des tableaux. Et puis un autre tableau. Des montgolfières volaient en direction de la côte et un son grave rauque traversa la nuit. Un autre tableau encore. Sur une colline à proximité se dressait un château percé de fenêtres blanches. Au cours des semaines suivantes, chaque fois que je montais à l'atelier, je posais un autre tableau sur le chevalet que j'avais poussé près du fauteuil rouge devant la fenêtre. Et c'était sans cesse de nouveaux voyages vers les lieux que Max avait peints. Je franchis des portes mystérieuses et parcourus des rues plongées dans la nuit. Je marchais à pas lourds à côté des poules dans des paysages enneigés et espionnais les deux garçons au bord de la mer, le grand et le petit. Je traversais les prés avec le clown et l'oie et la ville avec des pingouins. J'étais tantôt le roi, tantôt la petite fille quand je voguais sur la mer avec le lion. Je vivais de nouvelles aventures au cours de chaque voyage et quand j'avais quitté un tableau, je pouvais partir vers une destination toute différente. Et au retour de mes expéditions, m'accueillait la mollesse du fauteuil, le tic-tac rassurant de l'horloge et la chaude sécurité de la pièce. Je comprenais maintenant pourquoi Max avait souhaité que je découvre les tableaux en son absence. Il n'avait pas voulu être là, ni me donner la moindre explication. Plus je regardais les tableaux, plus les réponses à mes questions s'imposaient d'elles-mêmes. Les vacances d'été étaient terminées. Le tableau où est peint le phare est le dernier que je posais sur le chevalet. Je voyais le phare de notre île presque chaque jour, mais jamais comme Max l'avait peint, surgissant du brouillard. Je sortis mon violon et essayai de jouer la musique que j'entendais en regardant le tableau. C'était une mélodie caressante, souriante. Ce soir-là, la ville disparaissait presque entièrement dans le brouillard et la mer était invisible. Max avait écrit simplement « Phare sur une île », mais je retournai le billet et écrivis « Le cheval est sourd, Max, mais moi, j'entends distinctement la musique ». Le lendemain, Max était de retour avec le premier ferry et tout changea. Au cours de son voyage, il avait découvert une maison au sud, très loin de notre île. Comment aurais-je pu comprendre qu'il voulait partir ? Il était venu ici parce qu'il cherchait un endroit où il pourrait peindre en paix les tableaux qui m'étaient maintenant familiers. Mais il me dit qu'il ne pouvait rester longtemps au même endroit. Que maintenant que les tableaux étaient peints, son temps sur l'île était achevé. Qu'il devait partir pour peindre dans un nouveau lieu des tableaux tout différents. Il dit aussi qu'il n'oublierait jamais les moments passés avec moi, que j'étais quelqu'un de rare et que je devais absolument continuer à faire de la musique. Max ne m'avait jamais parlé ainsi. Je l'écoutais, mais je ne compris pas ce qu'il me disait. L'été était terminé. Les nuages s'amoncelaient en montagnes grises dans le ciel et la mer agitée avait pris une teinte brun foncé. Nous étions sur l'embarcadère, mes parents et mon frère m'avaient accompagné jusqu'au port. Max posa sa valise de cuir brun et se passa la main dans les cheveux. Sa veste noire flottait au vent qui fouettait l'île et chassait sur l'asphalte des rues des tourbillons de feuilles et de branches. Dans la file de voitures qui attendait le ferry se trouvait un camion de déménagement jaune. Pour la dernière fois, j'entendis la voix chaude de Max. « Tu vas me manquer, professeur, » dit-il doucement, et je regardais mes chaussures. Puis il franchit la passerelle rouillée du ferry. Ce jour-là, je ne courus pas jusqu'au phare. Nous étions trempés par les embruns, battus par le vent contre le quai. Je ne distinguais plus rien à travers mes lunettes. Je me tenais là, dans mon anorak bleu dégoulinant, le goût salé de l'eau sur mes lèvres, et je sentais la main de ma mère sur mon épaule. Un couple avec un enfant, un garçon, emménagea dans l'appartement de Max. Ils avaient aussi un chien minuscule qui aboyait toute la journée. En échange d'un rouleau de réglisse, le fils des nouveaux locataires me laissa faire un tour avec son vélo neuf au chrome étincelant. Il me montra son circuit automobile et sa collection de navettes spatiales en plastique. Parfois, nous jouions ensemble au football dans le parc municipal où faisions voler nos cerfs-volants sur la plage les jours de grand vent. Pendant une longue période, je ne touchais pas à mon violon. Le jour où je le sortis de son étui, mon frère poussa un soupir inquiet. Parfois, je courais jusqu'au phare quand accostait le ferry et j'essayais de distinguer les traits des voyageurs appuyés au bastingage. L'hiver s'acheva et par une chaude journée de mars, je reçus un colis de Max. Sur le papier d'emballage étaient collés des timbres étrangers de toutes les couleurs. Le paquet contenait un tableau. Sur un quai est posé un fauteuil rouge entouré de tableaux. Des mouettes survolent la surface scintillante de la mer, de voiliers croisent dans le lointain. Un jeune garçon vêtu d'un anorak bleu est debout sur le fauteuil et joue du violon. Il a des lunettes d'acier démodées et il est un peu rondouillard. Au dos du tableau était collé un morceau de papier à dessin. De sa haute écriture, Max avait écrit au crayon « Sais-tu, professeur, ta musique et toujours dans mes tableaux. » Le tableau de Max s'est accroché dans le couloir de notre appartement à côté de la chambre de ma plus jeune fille. Je le regarde chaque matin lorsque je décroche mon manteau. Ensuite, je prends le bus pour me rendre à l'école de musique où j'enseigne le violon. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.